Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 6h46, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discutez aujourd'hui avec Ulrike Gero, professeur de politique européenne à la Donau-Universität Krems de Vienne, sur la crise politique en Allemagne.
Et quelle crise, des partis divisés, Angela Merkel en défaut, le président allemand qui a repris la main et l'Union européenne qui s'inquiète. C'est la version allemande du Brexit de Trump, selon le magazine Der Spiegel. Bonjour Ulrike Gero.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone avec nous en direct de Krems, près de Vienne. Vous êtes fondatrice du European Democracy Lab et professeure de sciences politiques à l'université du Danube à Krems, justement. Alors, ce blocage des négociations entre conservateurs, verts et libéraux pour une coalition est une situation inédite depuis 70 ans en Allemagne, disait le président Frank-Walter Steinmeier. C'est un double bouleversement, c'est vrai, d'abord pour la longévité et l'habileté politique d'Angela Merkel, la chef des conservateurs au pouvoir depuis 12 ans, et ensuite pour l'image de stabilité de la démocratie allemande aux yeux de ses électeurs et au sein de l'Union européenne. Une union à un moment crucial qui comptait sur l'Allemagne dans les négociations sur le Brexit, peut-être les relations avec la Russie ou une éventuelle relance européenne franco-allemande ardemment souhaitée par Emmanuel Macron. En tout cas, c'est donc un choc. L'épisode vient briser cette image d'une Allemagne modèle démocratique et pilier européen. Reste que rien n'est joué tout de même, Ulrike Gero, puisque c'est au président Steinmeier désormais de forcer en quelque sorte une solution, un compromis. Et il y a quand même deux scénarios, si on comprend bien, ou bien un gouvernement minoritaire de dernière minute ou des élections anticipées. C'est un peu la situation ?
Oui, c'est un peu la situation, encore que depuis hier soir, la situation change encore tournée, c'est-à-dire que, comme vous dites maintenant, après l'échec des consultations de Jamaïca, le président Steinmeier est en train de consulter avec les partis si on ne peut pas avoir une autre coalition. Il met un peu la main et depuis hier soir, on a l'impression que quand même la pression sur le SPD monte, c'est-à-dire les sociaux-démocrates, de rentrer dans ce qu'on appelle une GroKo, une grande coalition. Donc, entretien avec M. Schulz, le président des sociaux-démocrates, et Steinmeier, c'est jeudi, donc dans deux jours, demain. Et il va falloir attendre, parce que maintenant, il semble quand même que l'idée des nouvelles élections est plutôt écartée.
Donc, on s'orienterait vers cette grande coalition qui était la solution écartée depuis le début, puisque le SPD se retrouvait perdant, trouvait-il à chaque fois dans ces grandes coalitions, et qu'il avait refusé dès le début d'y participer. Mais désormais, ça pourrait changer. Si on revient sur simplement cette alliance, en quelque sorte, ou cette convergence d'intérêts entre Angela Merkel et Wolfgang Steinmeier, on pourrait dire que Wolfgang Steinmeier va sauvegarder ce qui peut rester de confiance, que Angela Merkel pourrait obtenir un surcroît de légitimité. Mais il y a une ligne rouge, si on comprend bien, c'est quand même qu'elle veut exclure l'AfD et Die Linke, qui sont les deux partis montants, on pourrait dire, de cette élection.
Effectivement, c'est ça le cas. C'est d'ailleurs pas uniquement la situation en Allemagne qu'il y a un problème avec, comment dire, les ailes qui montent, les extrêmes. Et donc, écarter et le AfD, l'Alternative für Deutschland, et encore Die Linke, est un peu le but. Encore il faut dire qu'il y a beaucoup de politologues allemands qui disent que c'est précisément une grande coalition qui pousse, en fait, les extrêmes. Parce que dans la grande coalition, c'est encore un gouvernement de deux tiers, en gros, entre deux tiers, mais une grosse majorité de 60%. Donc, ça renforce un peu les petits partis d'extrême. Donc, ça aussi, c'est une considération qu'en fait, la grande coalition qu'on aurait pour la troisième fois en 10 ans est en fait mauvais pour la démocratie. Donc, ça, c'est aussi un argument.
Alors, on va revenir sur les différents scénarios qui pourraient advenir. Simplement, c'est vrai qu'on a beaucoup pu lire quand même dans la presse que c'était un échec au moins tactique, voire plus que ça pour Angela Merkel, mais est-ce que c'est un échec personnel, disons, au bout de 12 ans, une usure un peu mécanique de pouvoir, ou est-ce qu'il n'y a pas une trop forte, justement, vous êtes en train de le suggérer un peu, polarisation politique en Allemagne? Déjà, cette coalition jamaïque qu'on évoquait, conservateurs, verts et libéraux, c'était elle-même une tentative inédite au niveau national, ou quasiment.
Oui, déjà, il faut dire que Jamaïca, c'était du inédit, hein, parce que quand on regarde les profils des partis, que ce soit les Verts, que ce soit les Libéraux, c'est quand même pas des partis qui sont de la même famille politique. Hein, donc, les Verts, c'est une partie grosso modo progressiste, écolo. Les Libéraux veulent justement l'opposite, c'est-à-dire que les négociations ont essentiellement échoué aussi sur oui ou non, est-ce qu'on quitte le charbon, par exemple. Les Libéraux voulaient pas parce que ça ne plaît pas à l'économie, alors que les Verts insistaient. Voilà, donc tout cela. Donc c'était inédit d'avoir une coalition aussi avec quatre partis, et donc d'une certaine manière, ça étonne pas que ça échoue, parce que c'est quand même très 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 complexe. Alors maintenant, Madame Merkel, oui, elle est fortement, mais fortement affaiblie. C'est une question d'usure. On aurait pu savoir qu'un quatrième mandat. D'ailleurs, il n'y a que chancelier Kohl qui a eu quatre mandats à 16 ans. Donc peut-être elle voulait répéter ça, mais ça c'est aussi du inédit. Qu'on fait quatre mandats. Donc là, il y a une usure, mais au-delà de l'usure technique, il y a une usure du pouvoir. Et Merkel, qui n'a pas pu finir ces coalitions-là, les négociations, maintenant, elle est sous l'attaque, parce que si jamais on aurait des nouvelles élections, le risque que Mme Merkel ne conduirait peut-être pas à la télé dans ces nouvelles élections en tête de liste, c'est un risque réel. D'ailleurs, la même question se pose pour Martin Schulz, qui a eu aussi un résultat très très faible pour les sociodémocrates. Donc si jamais il y aura des nouvelles élections, je pense que le personnage de Martin Schulz sera aussi en débat au moins.
Et alors, précisément, dans l'éventualité de ces nouvelles élections, je le disais, il y a deux partis montants. L'AFD qui était à, j'ai plus les chiffres exactement dernièrement, mais quelque chose comme 10%. On les donne à 12% dans le dernier sondage pour un éventuel scrutin. Et surtout, le FDP, ce fameux parti libéral qui s'est un peu droitisé, qui a quitté les négociations dimanche, justement, en disant on va pas amoindrir nos propositions, c'est un peu lui qui a le plus à gagner en quelque sorte en cas de nouvelles élections.
Effectivement, la AfD est une nouvelle facteur, c'est-à-dire que pour la première fois d'ailleurs, le Bundestag voit 6 partis, et donc c'est une nouvelle configuration. On a toujours marché avec 2 grands partis, les chrétiens-démocrates, les sociodémocrates, un parti qui faisait le choix, en gros, les libéraux. Là maintenant, on est 6 partis et donc ça change la donne. 12% pour la AfD, je pense que la réelle raison de craindre tellement des nouvelles élections, c'est en effet la AfD qui est en train de percer, qui a monté, qui est très fort dans les nouveaux Länder à l'est de l'Allemagne, et la crainte que la seule partie qui vraiment profite de ces nouvelles élections serait l'Alternative für Deutschland dans les populistes, donc en fait notre Front National d'une certaine manière. La peur, elle est très grande. Là, vous dites aussi que maintenant, le CSU, donc la sœur bavarienne des chrétiens-démocrates, là aussi, la peur était assez grande de rentrer dans une coalition de Jamaïca. Il faut dire que Jamaïca, c'est quand même une coalition avec les Verts, alors que la Bavière, c'est un territoire très conservateur, avec encore 50% des gens, très, très en province, très, très, voilà, traditionnels.
Alors, en quelque sorte, pardon, je vous interromps, mais ça confirme un peu ce que vous dites, ce que disait un proche de la CDU anonyme, justement, à l'AFP. Angela Merkel est un peu débordée sur sa droite, puisque, disait-il, elle a déplacé son parti vers la gauche au moment où le pays entier bougeait vers la droite.
Exactement. Par exemple, souvenez-nous que par exemple, en juillet, elle a passé maître de justice sur la nuit, elle a changé son opinion, et c'était cette Ehe für alle, donc le mariage homosexuel, qui était un très très grand débat à l'intérieur de la CDU-CSU, et donc c'est effectivement là où Merkel a rapproché un peu le parti à la majorité de la population, parce que les Allemands ont large majorité, ont accepté le mariage homosexuel, il n'y a plus de débat, mais les partis ont résisté, et là, c'est effectivement le reproche qu'Angela Merkel a poussé le parti vers la gauche, alors qu'en fait son électorat à droite perd le parti, et du coup le AfD peut faire la percée. Là, ce qui est très important dans cet regard, c'est qu'il y a maintenant des élections en Bavière en printemps prochain, et donc je pense que Seehofer, le président de la CSU, après tout, encore que ça se dit évidemment pas, est aussi pas malheureux de sortir de Jamaïca. Ça lui aurait coûté peut-être sa victoire en Bavière début de l'année prochaine. Donc c'est vraiment un peu le bordel, si je peux dire comme ça, en Allemagne, parce que situation inédite, pas de solution claire, toute solution mauvaise, c'est-à-dire que nouvelles élections, personne n'en veut, grande coalition, on a eu, c'était pas bon, Jamaïca, presque impossible, donc c'est un peu le choix entre peste et choléra pour beaucoup en Allemagne, et ça sent vraiment pas bien, alors qu'on est tous un peu dans le consensus, maintenant on va faire, j'ai regardé toutes les émissions de télé hier, mais c'est, on se dispute, mais vraiment, on se hurle un peu dessus, qui est maintenant le coupable, tout ça, mais c'est pas simple, quoi.
Et c'est pour ça qu'on vous pardonnera d'avoir utilisé le lexique de notre président Emmanuel Macron. Je renvoie à ce titre nos lecteurs à votre article en allemand dans le site Merten, Warum Macron aussitzen keine Lösung X, pourquoi ce n'est pas une solution de mettre à l'écart ou de s'asseoir sur les propositions de Macron. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Ulrike Guéraud, fondatrice du European Democracy Lab et professeure à l'université du Danube à Krems.